Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Bonjour à tous, ici Anna, micro de contre-soirée, et on se retrouve pour un nouvel épisode très spécial, puisque cette semaine, on est délocalisé en altitude pour la 27e édition du Festival de Films de Comédie de l'Alpe d'Huez. Donc, tous les soirs, moi, j'organise ma contre-soirée ici, entre tempête de neige et remontée mécanique en panne, pour vous emmener en immersion et vous partager des anecdotes, des story time, des discussions, des rires avec plein d'invités. On se fait un épisode par jour pendant une semaine, c'est un très grand luxe, et du coup, je vous laisse avec celui d'aujourd'hui, en piste.
Bonjour.
Bienvenue chez moi.
Bah, je suis ravi d'être là.
Je suis ravi de t'accueillir. Nous sommes avec Florent Bernard, pour ceux qui n'auraient pas reconnu sa douce voix. On est confrères de podcast.
Bah ouais.
Je t'observe dans l'ombre depuis des mois.
Ouais.
Parce que t'es devant moi dans les classements, évidemment, toute la sainte journée. Du coup, j'essaie de trouver un moyen de vous détrôner.
C'est pas une compète.
C'est finalement un marathon qui
se fait. C'est ça. Nous, on est là. Là où on a eu de la chance, c'est qu'on était là avant que ce soit un peu la mode. Du coup, on est juste des tu sais, c'est comme les vieilles radios, quoi. C'est juste que les gens écoutent par habitude, mais
pas du tout. Les gens écoutent parce que vous êtes excellent.
Ah, c'est gentil.
Mais du coup, tu m'ouvres un peu une brèche là. J'ai fait mes recherches sur toi pour connaître des choses plus approfondies pour préparer cette interview. Déjà, j'ai appris deux trucs. J'ai appris que t'étais né au Creusot.
Ouais.
Est-ce que c'est l'endroit où il y a la gare?
Oui.
Le Creusot TGV.
Oui, le Creusot.
Wow, je connais personne qui habite là-bas. C'est sympa.
Toi, tu vas à Lyon, t'es de Lyon.
Ouais, je suis de Lyon.
Donc c'est ça, donc tu traverses
tout le temps. Je me farcis le Creusot TGV
ouais,
à chaque fois.
Pas. Bah ouais, bien sûr.
Sympa, une belle enfance au Creusot du coup.
Alors mon enfance, c'était pas au Creusot, c'était pas loin, c'était pas beaucoup plus ouf.
Ok.
Mais, oui, ce n'est pas qu'une gare qui relie Paris à Lyon.
C'est aussi. Il y a donc des vrais gens qui vivent là-bas.
Il y a une ville, il y a une tour, il y a minière, il y a pas beaucoup d'autres choses, mais le parc des Combes, s'il y en a qui.
Bah écoutez, voilà. On gagne à y apprendre finalement.
Bah, c'est les petits recoins de France.
Et j'ai appris aussi que tu avais fait un bac L, et moi aussi.
Ah, mais est-ce que tu as fait un bac L par paresse de faire les autres comme moi? Parce que c'était ça. Non, ou t'as vraiment kiffé
la
littérature?
Non, c'était pas par passion de la littérature, c'était par phobie des mathématiques plutôt.
Bien
donc
sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Mais on est considéré comme des saltimbanques et des.
Oui.
Mais tu te sens saltimbanque toi? Enfin, tu te sens.
Bah, du coup, j'ai
bouffon.
Fini là-dedans, donc je me dis,
ouais, c'est
bon,
vrai, bah, oui,
il y a dû avoir un truc. Mais c'est vrai que moi, c'était comme toi.
Ouais.
J'ai vu les maths en seconde, j'ai fait oh là. Après, j'ai fait première L et on est revenu aux additions et j'étais très content.
T'as une petite mention au bac?
J'ai une mention assez bien.
Ah, moi aussi.
Ouais,
12,8. Genre.
C'est ça, exactement. Pas beaucoup plus que 12.
On est un peu dans la moyenne finalement.
C'est bien, mais ça sert à rien.
T'as commencé les podcasts en 2015. Donc, comme tu disais, c'était largement avant que tout ça devienne un truc sérieux.
Ouais.
En fait, je t'explique. J'ai envie que tu me racontes un peu ton parcours de vie.
Yes.
Pour que tu m'apprennes des trucs et qu'on discute de tout ça.
Très bien.
Donc, tu commences en 2015. C'est quoi le podcast à l'époque? Pourquoi, avec ton ami Adrien Manuel, vous lancez dans ça? À quel moment ça vous vient à l'esprit et pourquoi?
Bah, en gros, moi j'écoutais des podcasts américains, en vrai.
Ok.
Et j'aimais bien parce que je sentais que c'était plus détente. Je sentais ce qu'on fait là, quoi. C'est un micro et des gens qui causent et il n'y a pas toute la pression de la radio et tout. Bon, ce qui est basique, hein, quand on dit ça maintenant, c'est la base du podcast. Mais c'est vrai qu'à l'époque, du coup, il y avait un truc de liberté. Puis moi, je venais de YouTube. Et YouTube, c'était le début où ça commençait à devenir un petit peu réglé, quoi. C'est genre, commençait à être mal vu si tu mettais des gros mots, quand tu parlais un peu de sexe, quand tu. Alors, sachant qu'on n'était pas non plus. C'était pas notre cœur de passion, mais nous, on faisait des blagues un peu trash des fois, tu vois. Et on sentait qu'on était moins mis en avant. Et je fais, ah, ça y est, ça commence à être réglé par des trucs. Et ça a été le nouvel espace de liberté, le podcast. Et donc, on a fait ça. Et puis, on a kiffé. Et ça a été notre. Moi, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis quelqu'un de très sociable. C'était un peu l'excuse pour rencontrer des gens. Et donc, avec Adrien, on se retrouvait pour faire ça. Avec d'abord beaucoup de gens de Golden Moustache, on se voyait en dehors, c'était cool, on faisait des émissions. Et puis après, avec le temps, on a eu de plus en plus de gens qui nous écoutaient. Ça nous a ouvert à beaucoup plus d'invités. On a avancé dans nos vies et voilà quoi.
Ah, vous êtes à 9 saisons?
C'est ça, ouais.
Et vous arrivez encore à vous épanouir dans ça et à trouver des trucs à raconter et tout?
Bah, en fait, nous on réagit un peu à l'actu chelou du monde. Donc en fait, il y a toujours des trucs à faire, tu vois. Mais on sait que quand ça nous amusera moins, on arrêtera par contre. Enfin, okay. on fait vraiment que par kiff, même si aujourd'hui, bah, c'est beaucoup, ça nous rapporte de l'argent, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans. Donc ça a forcément changé des choses, mais le kiff, on fait ça que par kiff. Et voilà.
Vous êtes chez Acast ?
Ouais.
Ouais, moi aussi.
Bah ouais.
Il y a votre photo dans le studio Acast.
Ouais.
Il n'y a plus la mienne, donc je suis très énervée.
Aïe, 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 aïe. Si Acast nous écoute,
ouais.
Faut que tu fasses des trucs genre Acast Plus et tout.
Ah non, pas du tout.
Moi non plus.
Ah, merde. Ouais,
peut-être c'est quand t'auras la photo.
La photo va. Bah, elle a été un moment. Ouais. Après, j'ai fait l'Olympia, ils ont basé ma photo, ils ont dit passer à autre
super,
chose.
Super, bah génial.
Pas très sympa, moi qui fais des efforts. Parlons d'Olympia du coup.
Ouais.
J'avoue que pareil, je passe un peu pour une cinglée là, mais franchement, non, j'admire beaucoup ton travail. Donc,
bah, c'est gentil, merci.
Je dois te le dire.
Bah, je suis ravi d'être là donc.
Bah génial. Je vois quand moi je fais l'Olympia avec Contre-Soirée, donc il y a 6 mois. Je me renseigne évidemment sur qui l'a fait avant moi,
ouais.
Et je découvre que vous l'avez fait. Et vous avez aussi fait une tournée. En fait, l'Olympia c'était une date de la tournée finalement.
Ouais, c'est ça.
Vous avez fait une tournée avec Furax.
Ouais.
La tournée, est-ce que c'est un kiff ou est-ce que c'est une tannée?
Ah ouais. C'est un kiff. C'est cool parce que là, ce qui est génial, bah, je t'apprends rien. On fait des métiers où on voit pas les gens quoi. T'as fait l'Olympia, tu as dû le sentir. Et en plus, il y a un truc cool, c'est que tu viens de Lyon toi ou pas du tout?
Ouais, complètement.
Ouais. Donc c'était quand même une grande ville, mais t'as quand même ce truc un peu où t'as l'impression que tous les trucs cool se font à Paris des fois. Après vous à Lyon, souvent les gros concerts et tout, ils venaient quand même pas loin de chez vous. Mais moi j'ai vécu ce truc de tous les trucs cool, ils sont dans les grandes villes et moi je suis pas là quoi. Et du coup la tournée en alors faut plus dire en province mais en région disons.
Bien sûr.
Y a ce truc cool où bah tu vas les voir quoi. Et donc déjà en fait déjà ils sont trop charmants parce qu'ils sont trop contents que tu viennes les voir. Et donc ça donne une autre émotion, un autre kiff. Et non, moi j'ai adoré la tournée. Et la tournée était tellement bien que même si l'Olympia c'était notre plus grosse date et c'était trop cool d'être sur l'Olympia, bah c'est vrai que c'était un peu une date parmi les autres parce que le public était chaud à chaque fois quoi.
C'était quoi votre rythme
sur la tournée?
Ouais.
Putain, je saurais pas te dire exactement. En fait, ils enchaînaient un peu les week-ends. Je sais qu'on en faisait un peu genre vendredi, samedi, différents week-ends, et je crois qu'on a fait tout le mois de septembre. On a fait une rentrée en fait. On a annoncé notre rentrée via la tournée
et on en
a fait plusieurs week-ends de début septembre à début octobre.
Et ce rythme, tu recommandes? Tu trouves ça sympa? Tu trouves pas ça usant?
Non, après on fait pas exactement la même chose. Là, toi, tu es beaucoup plus, active. Non, mais tu présentes. Enfin, toi, t'es là, tu parles.
Ouais, vous avez des formats et vous avez des invités.
Déjà, on est deux.
Ouais.
Je veux dire, j'ai Adrien qui me backup. On a des invités qui changeaient à chaque date, donc ça remettait un peu du frais. Et voilà. Et après, nous, on a essayé de penser le truc un peu aussi. Ok, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus que le format audio? Donc, on faisait des petites conneries visuelles, etc. Tu vois. Mais par contre, c'était vraiment que du kiff. Et là, bah, moi, j'ai mon film, donc j'ai pas pu m'y repencher, mais j'ai envie de refaire. Ça, c'était chouette.
T'arrives à concilier les deux, c'est comment les enregistrements et tout pour
là
concilier?
Pour être tout à fait honnête avec toi, c'est un tout petit peu plus dur qu'avant.
Ouais.
Parce que j'ai eu un peu une grosse année, je suis jeune papa aussi, donc c'est ben voilà, je veux pas tout mettre sur le dos de ma fille, mais ça fait beaucoup de choses. Et le podcast est devenu hebdomadaire depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas au début. Moi, je le faisais quand j'avais envie. Et en fait, on s'est un peu imposé un rythme parce qu'on commençait à faire des saisons où on n'en faisait plus parce que, à force de. Moi, je suis très. Si c'est pas réglé comme papier, je le fais jamais et c'est terminé quoi. Donc on s'est vraiment imposé un rythme et voilà, et là on l'a fait et c'est bien, mais c'est vrai que c'est un peu usant. Bah tu vois, là on est à l'Alpe d'Huez, c'est trop cool. Et ça parle de potentiellement gros chute de neige cette nuit et tout. Et moi je suis genre, faut vraiment que je rentre parce que j'enregistre demain matin à la maison le podcast. Et sinon, si je l'enregistre pas, j'ai pas d'épisode lundi, tu vois.
Fuis immédiatement. Mais après là, il pleut donc finalement, je crois qu'on nous ment.
Je crois qu'on va être bien. Je crois qu'on va être bien.
Ah ok, donc vous faites pas des sessions de 2 semaines d'enregistrement intensive et vous utilisez tout. Mais non, parce que je dois réagir avec ce qui se passe dans la vie.
C'est ça le truc quoi. Ouais. Mais après, des fois, ça nous arrive d'en avoir un peu un d'avance.
Les
et
vacs.
C'est vraiment comme les vacances. Ouais, c'est ça, je te jure, on est vraiment en mode, quel kiff.
Ouais.
Mais non, on est obligé, on est réglé un peu sur l'actualité. Après, je pense que cette année, comme l'année dernière, à un moment, je suis obligé de dire bah, désolé, auditeur, mais il va y avoir une petite pause. Quand j'ai tourné le film, j'ai eu un mois et demi sans épisode parce que bah, y a un moment, il fallait que je tourne un film et que c'était pas conciliable.
Exceptionnel d'ailleurs de tourner un film, enfin exceptionnel ce qui se passe pour toi là en ce moment. Est-ce qu'on peut parler un peu du cinéma?
Ah bah avec plaisir.
Toi, quand t'as commencé avec Golden, c'était déjà la tête complètement dans les courts-métrages, enfin les courts-métrages, je le dis vite, mais.
Ouais, non, si c'est ça, les sketchs, les courts-métrages, ouais, bien sûr.
Donc t'es tombé dans le chaudron quand t'étais petit, finalement, t'as pas appris il y a 2 semaines.
Ouais.
À quel moment ça devient un plan de carrière pour toi? Tu te dis, je peux passer d'internet à la vraie vie, au vrai vie, vrai cinéma.
Ouais.
Nous, gens d'internet étant un peu méprisés parfois par les autres milieux.
Ça peut arriver, ouais. Après, en fait, moi j'ai l'impression à chaque fois de. j'ai eu de la chance, mais j'ai, je crois que je fais partie de la dernière génération qui voyait vraiment Internet comme un tremplin, parce que ça, on commençait à peine à en vivre. C'était dur de se dire, grave, on pourra faire que ça. Aujourd'hui, par exemple, grâce au Floodcast, je pourrais faire que ça dans ma vie, en vérité, et vivre en dessous de mes moyens, mais je pourrais vivre. Ça me rapporte de quoi manger, payer un loyer, etc. Bon, ça, c'était complètement inimaginable il y a quelques années, tu vois, même Golden Moustache. Ils nous ont fait confiance et tout, et je renierai jamais cette époque. Mais tu regardes les tarots de ce qu'on était payé, etc. Et tout, et par rapport à. Bah voilà, c'est vrai que c'était minuscule, quoi. Donc, moi, je voyais vraiment Internet comme une possibilité de faire mes preuves, d'apprendre mon métier. Parce que, bah, tu vois, tu le sais tout comme moi, ce qui est intéressant quand tu commences sur Internet, c'est que tu apprends tous les métiers d'un coup. C'est-à-dire que tu apprends à. Bah là, tu vois, tu dois utiliser ça, tu dois savoir animer, mais c'est vrai, tu dois savoir utiliser ton image, tu dois faire du montage, tu dois faire des trucs. Moi, quand j'ai commencé, j'écrivais, je réalisais, je montais, je devais apprendre After Effects, je devais apprendre à Photoshop ma vignette, etc., etc., etc. Maintenant, vous avez le truc business en plus, à savoir comment on peut se vendre, comment. C'est fascinant de savoir faire autant de métiers.
Mais à ton époque, il n'y avait pas trop le côté.
Business, pas du tout.
Ouais, désolé, à ton époque.
Non, mais c'est vrai, mais parce que c'est Internet, ça va vite. C'est vrai, mon époque, c'était il y a 10 ans, moi, que j'ai commencé. Hein.
Bah moi j'ai commencé il y a 12 ans sur YouTube.
Ouais.
Mais je faisais pas la même chose que toi. Mais du coup, en effet, moi aussi j'ai vu les gens que ça a ramené, j'ai vu le business que ça a ramené.
L'évolution même, tu vois.
Et l'évolution qui. Là ça commence à aller mieux.
Ouais.
Il y a eu un petit moment là qui était un peu relou ces dernières années sur comment on était vu et comment ça se passait aussi.
Bah en fait, c'est dès que des médias comprennent pas trop. Et puis c'est vrai que d'un coup il y a beaucoup d'argent. Donc comment ça se passe tout ça, voilà. Nous on était vu comme déjà moi, Golden Moustache, Studio Bagel, c'était Internet, mais déjà c'était dit c'est Canal+, c'est M6.
Vous étiez crédible,
mais en même temps on était quand même vu comme des gens de la télé et pas des vrais indés comme pouvaient être des Antoine Daniel ou même des Cyprien, Natou, Norman. C'était des gens qui faisaient leur dose dans leur coin. Et nous, on était déjà un peu sous une égide télévisuelle, disons. Donc, on avait plus de moyens, mais bizarrement, on gagnait moins d'argent. Mais c'était mortel, parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris mon taf. Et aujourd'hui, le film que je peux faire, c'est sûr que j'ai appliqué tout ce que j'ai appris de ces années-là, parce que du coup, j'ai appris à tourner vite et pas cher. J'ai un peu plus de moyens, j'ai un peu plus de temps, donc je peux un peu plus m'amuser. Mais je suis sûr que j'ai appris des skills qui m'ont servi là, aujourd'hui, pour faire un long métrage.
Excellente réponse, tu me fais. En plus, voilà, ça, c'est génial d'interviewer des gens qui sont professionnels. Tu me fais des bons morceaux, parfait. Merci, t'es très doué. Ton film, du coup, qui s'appelle Nous les Rois, qu'on a vu hier soir, qui sort le 10 avril.
Le 10 avril 2024.
Au cinéma. Franchement, je vais là te donner un avis perso, même si tu t'as pas sonné ma cloche, mais je vais le donner quand même. Je l'ai trouvé excellent. J'ai pleuré à la fin parce que la fin est très touchante et parce que j'ai senti que dans la salle il y avait une vraie fierté, un vrai kiff du moment qu'on venait de tous passer. Ouais. Ce qui est franchement pas souvent le cas. Tu viens souvent au festival ?
C'est ma première. Maintenant, c'est mon premier film en tant que salle.
Ouais, mais t'aurais pu aller. Golden, ils avaient souvent des places.
Avec la Villa Chouette et tout. Non, j'y suis jamais allé, moi. J'étais jamais venu.
Bah, franchement, les réactions de salle, ça veut dire beaucoup. Moi, je me la raconte, mais c'est ma deuxième année. Donc, j'ai pas non plus.
Ouais, t'es déjà vieux.
Ouais,
tu connais bien.
Au ciné, c'est vrai que tu peux prendre la température. Et c'est choquant de voir à quel point d'un film à un autre, tu sens l'atmosphère dans la salle. Et là, hier, c'était hyper fort, j'ai trouvé. Les applaudissements étaient hyper longs.
C'est cool.
C'est très rare que la lumière se rallume et que les applaudissements reprennent, ça arrive jamais pratiquement.
Ok.
Donc je pense qu'est-ce qu'à ce moment-là déjà t'arrivais à être conscient ou t'avais envie de tomber dans les pommes et de vomir?
Non, ça c'était avant. Avant j'étais envie de tomber dans les pommes et de vomir parce qu'en fait on avait jamais montré le film, quoi. Donc c'est extrêmement angoissant. T'imagines, t'as bossé des années, tu dis bah voilà, c'est maintenant.
Il a mis des années à être construit
film. Bien sûr, bah tu sais, un premier film ça met du temps. Puis moi j'ai un pitch qui est pas le plus original du monde, faut être honnête. C'est un mec qui doit reconquérir un petit peu sa femme via un road trip, quoi. Mais par contre le ton, je pense, est un peu original. En tout cas c'est ma sauce, c'est ce que j'aime bien faire. J'ai essayé de mettre, on parlait de gens d'internet, il y a plein de gars et de meufs avec qui j'ai évolué, et avec évidemment après la team qui joue les Leroy, à savoir Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry et Adrien Olmé. Mais c'est vrai que j'avais très peur, un mélange d'excitation et d'angoisse, parce que pareil, tu vois, t'es dans le festival de la comédie, donc tu dis bon ok, c'est des gens qui viennent pour rire. Ah ouais, mais c'est des gens qui vont voir beaucoup de comédies, putain, tu vas falloir te tirer ton épingle
c'est
du jeu.
Terrible.
Ouais, mais c'était cool. J'arrive pas à savoir encore trop. J'ai eu des bons retours. Je te remercie pour tes mots. Et effectivement, moi, je prêtais oreille. Évidemment, tu regardes pas le film. Moi, je connais, hein, je l'ai vu.
Ah ouais?
Je l'ai vu 86 fois le film, je pense, à peu près.
Est-ce que tu me demandais quand je le regardais, est-ce que il y a encore des moments où tu te laisses à...
Non,
plus du profil, tout.
Non, par contre, je me laisse emporter parfois par les réactions du public. Ça, je suis vraiment comme ça, tu vois, j'écoute, je regarde d'un œil. Mais ça, c'est excitant, mais, ça, c'est coolos.
Mais c'est coolos parce que ça se passe bien.
Oui, bien sûr.
Mais
bien sûr.
Là, par exemple, hier au dîner, on parlait de ton film avec une dame qui bosse chez TF1 et qui disait que c'est chambé là ce qui s'est passé pour ton film, mais qu'il y a des films qui mettent comme toi des années à être construits et qui on sent dans la pièce que ça prend pas,
ouais, ça
et ça doit être terrible à vivre. Après, à la fois, tu le fais pour tes raisons et il faut affronter ce que les gens attendent.
Il y a une phrase d'un gars, c'est Jerry Seinfeld, qui est un humoriste. Il dit un truc que je trouve très vrai. Il dit, mais de toute façon, les métiers artistiques, du showbiz et tout, s'il y avait des règles. Ça se saurait, et c'est parce qu'il n'y a pas de règles que c'est excitant à faire. C'est parce que tu sais pas, tu vois, des gigastars qui des fois acceptent des films qui les ont propulsés, qui ont fait des millions d'entrées et tout, et puis le film d'après ils disent bon, ça c'est une tuerie et ça se plante.
Ouais.
Il n'y a pas vraiment de règles, tu vois, et c'est ça, je pense, qui fait que c'est excitant. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire ce. C'est mon premier film, j'ai aucune leçon à donner à personne, mais moi je me suis dit, je ferai peut-être plus jamais de film, donc il faut que je le fasse avec beaucoup de sincérité, il faut que je le fasse comme si c'était le dernier. Donc j'ai essayé de mettre tout ce qui était important pour moi, tout ce que j'aime, et après si ça plaît c'est cool, si ça plaît pas il y aura un peu un truc de bah franchement moi j'ai fait tout ce que je voulais offrir entre guillemets, les gens paieront leur place, hein, donc c'est pas offrir mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire le film que moi je voulais faire, donc si ça vous plaît pas et ben c'est juste qu'on n'est pas fait,
pas aligné.
Quoi, c'est ça.
Ouais, tu l'as fait pour attention compliqué, mais est-ce que quand tu construis un film, t'as une partie de toi qui calcule la cible que ça va toucher, les entrées que ça va faire?
Franchement, non. Honnêtement, parce que je pense que si tu commences à penser comme ça, le public, il change tout le temps. Mmh. Et les publics qui font des succès ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, vas-y, je sais pas, j'essaie de te trouver deux films qui ont marché l'année dernière. Le règne animal, c'est un carton, mais c'est pas les mêmes gens qui sont allés le voir que Alibi.com 2, qui est aussi un carton, et qui sont deux bons films. Mais c'est deux films très différents, et c'est pas les mêmes publics qui y vont, et tu parles pas aux mêmes gens. Je pense qu'il faut pas penser comme ça. Il y a des gens dont c'est le métier, à savoir vendre le film, qui eux pensent à des trucs comme ça. Mais quand tu le fais, je pense que un film en plus c'est éternel. Tu vois, moi je regarde des films qui sont été faits dans les années 70 et tu les redécouvres et tout. Moi j'essaie juste de me dire, il faut que je fasse le film que j'ai envie de faire à l'instant T, et j'essaie de penser en tant que spectateur. Je le fais pas égoïstement, tu vois. Je le fais pas. Ah, c'est mon film et puis si vous l'aimez pas, tant pis. Non, j'essaie de le faire en tant que spectateur, en disant qu'est-ce que je kiffe moi au cinéma, qu'est-ce que j'ai envie de voir, et j'essaie de penser comme ça, et j'essaie d'être généreux en blagues, en émotion, en performance de comédien, en me disant voilà, j'essaie de faire mon max pour que les gens ils se sentent pas floués quand ils mettent parfois jusqu'à 12 balles une place de cinéma, et voilà.
C'est très sympathique. Bravo pour cette belle générosité. Moi j'ai adoré la bande originale, j'ai trouvé que c'était très léché et
cool, merci.
C'était un peu, j'ai bien dansé et tout même pendant le film. j'ai beaucoup entendu parler les autres à la sortie de la salle. Tout le monde parlait du duo de Charlotte et José qui était complètement inattendu et qui fonctionnait très bien. Donc ça aussi très surprenant. Je dois te poser une question. Je peux pas dire les mots parce que je suis très pudique.
OK.
Est-ce que ce qui est dit dans la scène du bus sur la réaction physique provoquée
par le bus
est véridique?
Écoute, elle a été véridique sur ma jeunesse.
Oui, mais est-ce qu'on met le doigt sur un truc que vous cachez tous?
Les garçons?
Ouais.
Ouais, je crois.
Okay.
Mais des gens.
Des
garçons te diront peut-être que non.
Okay.
Je veux pas parler à. J'ai envie de te dire not all men. J'ai pas envie de parler au nom de tous les hommes. Mais c'est un truc que j'ai vérifié autour de mon entourage masculin qui revient régulièrement.
Si vous voulez savoir de quoi on parle, il faudra bien entendu
aller voir le bus, surtout.
Allez voir le bus. Ok, superbe. J'ai envie de te poser un peu des questions sur le fait de faire un film.
Ouais.
Je sais pas si je suis très original, mais moi ça m'intéresse.
On s'en fout. Moi, je te suis où tu veux.
Je voulais te parler de la charge de travail. Tu m'as expliqué que ça prenait des années.
Ouais.
Bon, moi,
pas tout le temps, hein. Mais moi, c'est un premier film, tu vois, et ça coûte un peu de sous, et du coup, ça met
comment
du temps à financer.
Je te pose des questions Franchement, moi, je suis pas du tout dans le milieu du cinéma.
Moi, je connais rien.
Moi,
je suis depuis pas longtemps. Hein.
Ok.
T'inquiète, t'as peut-être des questions où j'ai pas la réponse, hein, parce qu'il y a des trucs j'en sais rien.
Vas-y, t'as ton idée.
Ouais.
Comment tu sors un budget? Comment tu sors du budget? Comment tu as des fonds?
Alors, en gros, sur ce genre de film, tu vois, vu que c'est une comédie, déjà, j'ai un peu de la chance parce que ce que j'aime faire, c'est le genre entre guillemets le plus facile à financer en France, parce que la comédie, c'est un genre qui amène les gens au cinéma, quoi. Tu vois, là j'ai écrit un truc qui s'appelle Vermine, qui est un film d'horreur. On a de la chance, ça a été un succès, mais c'est plus difficile parce que le film d'horreur français ramène moins de gens en salle, etc., etc. Donc moi je fais une comédie. Ce qui se passe, c'est que déjà t'as ton idée, t'écris un peu ton scénario, il y aura plusieurs versions, je te la fais méga courte. Hein.
Fonce.
Mais tu réfléchis au casting, parce que c'est le casting qui va ramener du budget parce que c'est les castings qui va ramener des gens en salle. Parce que quand tu vas pas si souvent que ça au cinéma, même si tu vas souvent, tu vas regarder les affiches, tu vas dire bah eux je les connais, eux ils me font marrer, eux je les ai vus dans tel film où ils étaient cool, j'ai envie de les voir dans ce nouveau film quoi.
Okay.
Donc ça fait partie du truc. Et puis moi c'était des acteurs avec qui j'avais envie de travailler, donc ça tombe bien. Donc ça c'est un peu comme ça que ça se fait. Et ensuite bah tu découles le scénario et tu dis ok, combien chaque truc coûte. Moi comme je te dis, je viens d'internet, donc je viens d'une certaine économie, je sais ce qui coûte cher très vite, parce que les spectateurs s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a des trucs qui coûtent des sous. C'est, quand je dis coup de la lance, pas forcément une explosion ou un truc, c'est que juste un acteur qui vient 20 jours parce qu'il est là tout le film au lieu de 2 jours, bah tu multiplies par 20 au lieu de multiplier par 2 son salaire à la journée. Okay. Quoi. C'est des trucs comme ça.
Le tournage a pris combien de temps, je te coupe ?
Non, on a tourné pendant un mois et demi, tout simplement. 30 jours, c'est à peu près la durée d'un tournage.
Je vous voyais pendant 6 mois, mais en fait.
Non, c'est rapide.
Ah ouais ?
Non, c'est rapide, c'est 30 jours.
Okay.
Et vu qu'il y a eu des week-ends, des jours fériés et tout, c'est plus un mois et demi en tout, mais en jour tourné, c'est 30 jours. Et vu que nous c'est un film où la famille est tout le temps présente, bah c'est 30 jours où il y a 27 jours avec Charlotte Gainsbourg et 28 jours avec José Garcia quoi. Ils sont vraiment tout le temps là. Ils sont pas juste là 4 jours.
Ok,
quoi.
Donc le budget est conséquent pour ces.
Et ben il l'est pas parce que justement ce qui est chouette c'est qu'ils font un effort pour le film et puis que toi tu fais des économies ailleurs quoi.
Est-ce que toi tu dois les convaincre vu que c'est ton premier film quand tu leur proposes ce projet? Est-ce que genre c'est impossible de.
Heureusement, c'est pas mon métier parce que moi je suis pas bon pour parler argent. Ouais, c'est leur métier, c'est les agents tout simplement et les producteurs. Okay. Et ils trouvent un espèce. Voilà, ils discutent, tout le monde essaie de comprendre l'intérêt qu'a chacun sur ce genre de projet.
Okay.
Et honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, rien, mais tout le monde a été cool, tout le monde a été conciliant, tout le monde a été malin.
Je te demande pas de me sortir budget de Charlotte Gainsbourg. Mais...
Non, surtout je le connais pas.
Le scénario, l'humour que tu proposes, tu vois, la l'atmosphère du film,
ouais.
Ça veut dire qu'eux ils lisent ce scénario et qu'ils se disent je le sens, j'ai confiance et j'y vais.
Après moi je suis pas quelqu'un qui impose, c'est à dire que moi j'aime beaucoup écrire avec les acteurs.
Okay.
Mais tous, je te parle des deux là, mais je peux te dire pareil sur tous les seconds rôles. Parce qu'il y a des auteurs qui sont pas comme ça, les auteurs ils disent non, quand j'écris un truc c'est à la virgule, c'est pensé, faut pas que ça bouge. Moi je suis pas comme ça, moi j'aime bien quand avec les acteurs on réécrit ensemble parce que il y a que comme ça que ça sonnera bien, tu vois. C'est comme l'image que j'utilise, un peu flingué mais j'ai pas mieux pour le moment, c'est tu vois, tu composes de la musique mais jamais tu vas l'entendre jouer par le musicien. Ben moi je sais pas, je suis pas musicien, donc j'ai besoin que quelqu'un la joue pour que j'entende si ça sonne bien. Je peux pas que le faire à l'écrit. Et là d'un coup moi je suis pas quelqu'un qui improvise beaucoup sur le plateau parce que je trouve que le plateau c'est stressant, il y a du monde, etc. Donc j'essaie de garder du temps en amont pour faire des répétitions, des lectures, et c'est là où on ajuste, où on trouve des trucs, où des fois on réécrit des scènes entières, et c'est ça qui est cool quoi.
Ok, tu m'as dit tout à l'heure je l'ai fait à 100% parce que je savais pas si j'allais le refaire. Bah du coup, est-ce que tu vas le refaire ?
Bah j'espère, ça dépend. Écoute, je vais te faire une phrase un peu promo, un peu à chier. Ça dépend des auditeurs, faut aller voir le film en nombre.
Mais qu'est-ce que c'est convaincant ! Allez le voir,
allez
ce
le
film
voir, sinon il n'y en aura plus. Non mais c'est ça, ça dépend. Si tu fais un film qui fait zéro entrée, bah c'est normal.
Ok, toi t'es en mode entrée, t'es pas en mode ça m'a pas plu, on passe à autre chose.
Ah non,
du
moi j'en rêve.
Si tu pouvais faire ça toute ta vie,
moi
tu
j'ai
ferais.
Trouvé, en fait, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Je vais même te dire. Enfin, c'est des phrases un peu bourrines, mais c'est vrai, ça m'a aidé dans ma vie, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un, j'étais un adolescent un peu solitaire, je me faisais un peu emmerder au collège, etc. Et mater des comédies, ça m'a fait du bien. Et pareil, il y a eu un moment, il s'est passé le post-bac, tu fais quoi ? Je sais pas, rien.
Tu faisais quoi d'ailleurs au post-bac ?
Ah ben moi j'ai fait tout de suite études. Okay. En fait moi j'avais pas de sous pour les écoles de cinéma, sans faire Cosette, hein, mais c'est la vérité. J'ai fait une fac publique avec bourse, APL et tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Et c'était une fac à Marne-la-Vallée qui avait une spécialité cinéma. Et donc du coup j'ai appris un peu des logiciels de montage. Je peux pas dire que ça m'a beaucoup appris le métier de cinéma, mais ce qui était mortel c'est que t'es entouré de gens qui ont la même passion que toi. Et donc ça c'est génial parce qu'on se fait découvrir des trucs, on passe du temps ensemble et on fait des courts-métrages un peu flingués, mais on est tout
t'es
le temps ensemble.
T'es parmi les tiens quoi. Finalement.
Ouais, et en fait, mais c'est ça qui est super avec la fac, c'est que tu es avec plein de gens passionnés. Enfin, quand tu trouves un truc qui te fait
kiffer. Ouais, j'ai détesté la fac.
Ouais,
mais je faisais LEA, je faisais de l'allemand et de l'anglais.
Mais t'avais envie de faire ça vraiment?
Non, pas
ouais,
du tout.
C'est ça.
Donc,
la chance que j'avais, c'est que c'était mon truc que je voulais faire. Et aussi, moi, j'ai détesté le collège et adoré le lycée. Donc d'un coup, j'ai fait, il y a des gens comme moi qui aiment bien parler de films et tout. Donc ça, c'était cool. Et puis moi, la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé dans une espèce de toute petite fenêtre de tir de la fiction sur internet qui existe quasiment plus. Enfin, il y a toujours. Ouais. Quelques-uns, mais c'est pas ce qui ira. Enfin, tu vois, il y a pas les stars
de YouTube.
Vous
avez été au prime de la fiction sur internet.
Bah ouais, bien sûr.
Est-ce que ça a disparu? Oui, ça a disparu.
Ça
en
a
fait,
pas vraiment disparu parce que tu vois, tu prends des gens comme Le Monde à l'envers ou même tu vois un Théodore. Des fois, il va te faire des fictions, mais c'est petit, quoi. C'est des petits, des moments. Maintenant, les gens ils viennent prendre du divertissement, bah, tu vois, les tests, du McFly et Carlito, ou même, moi j'y connais un peu moins des choses hein, sur YouTube, mais quand je vois, tu vois, une Léna, elle parle directement à cam, etc. Et c'est des choses beaucoup plus proches. Alors que nous, c'était des petits courts-métrages, des petits sketchs. Et c'est vrai que ça, moi je suis arrivé, ça a commencé avec David Mourier, Monsieur Poulpe, Golden Shoe, tout ça. Ensuite, Studio Bagel, Golden Moustache. Et puis après, même ça, ça s'est un peu pété. Moi, quand je suis parti, ça commençait déjà un peu à se péter la gueule. Et après, il n'y en a pas eu trop, quoi, tu vois.
Actuellement, c'est plus du tout une question pour toi d'être sur YouTube, de revenir sur cette plateforme.
Bah si, parce que en fait, j'en fais encore un peu, parce que avec par exemple McFly et Carlito, qui sont des gens que je connais depuis bientôt 10 ans, moi McFly et Carlito, c'est ma petite fierté, c'est moi qui les ai fait venir à Golden Moustache avec Vladimir Rodionov, quoi, parce que je les connaissais de ce qu'ils faisaient dans des trucs un peu moins connus, et après ils ont eu la carrière qu'ils ont eu grâce à leur talent et uniquement leur talent. Mais du coup, on a une amitié très forte, et quand ils ont lancé le roast sur YouTube, c'est moi qui l'ai écrit avec eux, parce que je m'entends trop bien avec eux et je kiffe ça, et qu'on savait que c'était un format qu'on voulait faire depuis longtemps. Et moi, j'ai réalisé MacWalter 3 en 2015. Enfin, pour moi, Internet, c'est plus un tremplin, c'est vraiment un truc qui existe de lui-même. Il vit que, enfin, Mister V, pardon, quand il fait des trucs sur Internet, il fait des trucs léchés de fou, trop drôles, quoi. Il met de la thune, tu vois, on parlait de fiction. Lui, c'est un des gars qui fait encore de la fiction sur Internet et qui l'a fait bien et qui s'entoure des meilleurs.
C'est complètement une plateforme à part entière, et c'est une plateforme où tu peux vivre sans vouloir aller ailleurs.
Fenêtre de diffusion. Et moi, à un moment, si j'ai une idée d'histoire où je me dis, bah franchement, le meilleur endroit pour le faire, c'est Internet, bah j'irai sur Internet. Je mets pas de hiérarchie. Le cinéma est pas au-dessus de l'Internet, qui est pas au-dessus de la musique, qui est pas au-dessus de la télé. C'est plein de façons de consommer des trucs. Et de se faire kiffer et de kiffer des choses. Et voilà, le roast par exemple, c'était le meilleur chose à faire, c'était de le faire avec McFly et Carlito sur YouTube. À la télé, ça n'avait aucun sens, en radio, ça n'avait aucun sens, et là c'était parfait.
Ok, t'as une super gestion des plateformes finalement, donc félicitations.
Non, mais j'aime pas la hiérarchie des trucs, quoi. Tu vois, quand la télé elle a commencé à être médisante avec Internet et tout, tu dis bah, vous êtes bête parce que vous avez des choses à apprendre de ces gens-là, comme Internet a des choses à apprendre de la télé. Et d'ailleurs, tu vois, un gars comme Squeezie, je trouve qu'il a tiré le meilleur de la télé, en fait. Il a des concepts qui pouvaient être des émissions télé, sauf qu'il y a mis sa jeunesse, sa modernité, son intelligence, son kiff. T'as des invités qui viennent chez lui en détente totale, sans la pression de la promo, etc. Et il a tiré le meilleur de la télé, tu vois. Et donc, c'est ça qui est malin.
Ok, très intéressant. Ça m'a beaucoup plus que tu m'as dit là. intéressant aussi le truc de la croisée des mondes et de les gens d'internet qui vont dans le cinéma, et de est-ce que des fois c'est compliqué de joindre et de se faire accepter. Je parlais hier avec Marie Louberry de cette tu vois, un peu de l'incompréhension ou de la peur de l'inconnu qui fait qu'on se regarde un peu bizarre des fois, et elle disait qu'elle elle le comprend pas du tout, et qu'elle limite pense que c'est juste de la peur de d'un côté ou de l'autre, mais qu'il faut que tout le monde s'ouvre à chacun.
Bah, elle a raison.
Bon, après, on est tous évidemment pacifistes et on va pas dire le contraire, mais.
Non, mais puis c'est une manque de. Il y a beaucoup de choses qui se font, quoi. Des fois, c'est dur de tout voir. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de lacunes en série, et je suis sûr qu'il y a des super séries avec des super comédiens, mais je connais pas, quoi. Parce que c'est pour ça que j'en veux pas aux gens qui n'ont pas trop suivi. Parce que,
je parle plus de mépris de. Ouais. Tu vois, mépris de.
Mais je pense
classe.
Que c'est un peu passé, j'ai l'impression. Sans ouais. Mais à une époque, c'était très vrai. Je sais que. Parce que j'ai des amis qui ont travaillé quand ils font Le Manoir, qui était un film d'horreur avec beaucoup de gens de YouTube, les gens se pincent le nez, quoi. C'est vrai, c'est pas un vrai film, c'est un film de YouTubeur, tu vois, et tu fais ah bah non, mais pourquoi? Parce que ça a été quand même écrit, produit, tourné, la volonté c'était de faire un film. Je sais pas, je pourrais pas te dire si le film est bien ou non, mais la vérité c'est que c'est un vrai film, ça, tu peux pas nier ce truc là. Et je trouvais qu'effectivement il y avait un truc de, moi je sais que dans mon film il y a la croisée de tous ces mondes, il y a Jérôme Niel, il y a Adrien Méniel, il y a Sophie Marie Laroui, c'est des gens qui aussi ont eu des choses sur Internet et qui l'ont très bien fait. Mais après c'est aussi des fois des espèces de modes, tu vois, par exemple il y a eu ce truc de Internet au cinéma ça marche pas, à un moment c'était ça le truc, parce qu'il y avait eu l'échec du Manoir, il y avait eu le film avec Norman de Maurice Barthélémy, il y a eu plusieurs films comme ça qui n'avaient pas marché. Et moi j'étais énervé parce que je dis mais les gars vous foutez de ma gueule, il y a les Kaira avec Franck Gastambide, c'est YouTube, c'est les Kaira, c'était sur Internet, tu vois, c'était ce qu'il faisait avec ses deux potes. Max Boublil quand il fait les gamins avec Alain Chabat, il faisait des clips sur Internet, il a été connu Max Boublil grâce à Internet. Le Palmachot quand ils font la folle histoire de Max et Léon, ça marche trop bien, ils sont passés par la télé après, mais ils viennent d'Internet. Et il y avait ce truc un peu chiant d'effacer ceux qui venaient d'Internet quand ça réussissait, en disant ouais mais Max Boublil il fait de la scène, ouais mais les Kaira c'est autre chose. Tu dis bah non, c'est des gens qui sont construits sur Internet aussi, juste c'est un succès, tu vois. Ouais. Et ce serait cool d'en parler aussi parce que c'est chouette.
Bah tu concilies bien tout ça, et grâce à toi je crois que nous avançons vers un monde où tout le monde marche main dans la main.
Mais cela dit, Marie Louberry, je sais qu'elle avait bossé aussi avec des gens d'Internet, elle avait fait des films avec des Marjorie Noron, des Natou, des Audrey Pirot. Elle a toujours eu cette curiosité.
C'est trop sympa. J'ai adoré la recevoir.
Je la connais pas, mais elle a l'air trop cool.
Mais elle aussi se décrit comme quelqu'un d'assez réservé et pas forcément très à l'aise dans les contextes sociaux. Elle disait qu'elle a un peu du mal à certains dîners, à certains trucs où elle est un peu en train de péter un plomb. Dans le milieu de, tu vois, du cinéma et tout, quand on est amené à vivre des cérémonies comme on vit ici ou quoi. Mais du coup, en fait, je crois que tout le monde est un peu mal à l'aise et qu'il faut juste qu'on se détende. Enfin,
ouais, c'est ça.
Je suis vraiment là pour
non, mais c'est cool.
Sauver le monde.
Mais ceci dit, tu sais que le podcast, moi, c'est dingue. Tu vois, la conversation qu'on a là,
ouais.
Moi, je suis incapable de l'avoir avec toi sans un micro, sans un casque, une soirée où juste on se croise, on se dit bonjour.
Je te jure.
Et ça, c'est vraiment magique, hein, pour le coup. Parce que moi, ça m'a permis de causer à des gens tellement intéressants que j'aurais pas fréquenté sans ça.
Moi, tu l'as dit au début, j'ai complètement relate avec ton propos. Hier soir, par exemple, à la fin de l'enregistrement, je me suis dit que c'était fou. Je m'étais jamais rendu compte à ce point-là. Parce que moi, c'est mes débuts dans l'échange, tu vois, vraiment. Normalement, je parle très souvent toute seule. À quel point, quand t'as un micro et un casque et que tu vois, t'es dans un contexte particulier, tu te laisses beaucoup plus facilement échanger et tout. Et donc, oui, en effet, c'est magique.
Et tu vas voir, tu vas goûter un truc qui est cool parce que après, t'as envie d'en faire beaucoup plus. C'est trop cool à faire ce truc, tu vois.
Ouais, puis finalement, je pensais que c'était impossible et que si t'avais pas une formation de journaliste, c'était même pas la peine d'essayer. En fait, pourquoi pas? Ça reste un échange et ça reste comme tout ce qu'on fait, on se l'apprend nous-mêmes.
Il y a zéro règle en fait, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de personne à édicter des règles sur comment marche un podcast, comment marche un film, tu vois. Et ta façon d'aborder les trucs, elle est différente, tu vois, de tous les journalistes que j'ai vus aujourd'hui qui étaient super, tu vois, mais c'est encore autre chose. Donc au contraire, c'est plutôt une bouffée d'air frais. Enfin, nous, je sais que c'est aussi comme ça que les invités qui viennent dans le podcast, ils kiffent parce qu'il n'y a pas tous les trucs de télé, ou de radio, de pub. Faut parler 5 minutes et voici un deuxième chroniqueur. Ils sont juste dans la discussion et c'est ça qui est chouette.
Oh, bah merci, tu me redonnes confiance en moi.
Mais non, c'est grave, t'as confiance en toi, t'as fait l'Olympia, ça va, tout va bien.
Ça va. Bon, je te rends ta liberté.
Non, mais je suis trop content, j'aurais aimé rester plus, mais ouais, y a tous les trucs de voiture et machin.
Bien sûr. Va.
Mais merci beaucoup, c'était cool.
Avec plaisir, à très
J'espère
bientôt.
Que j'ai été intéressant. Merci.
Et on va voir nous les Leroy au cinéma, bien
trop
sûr.
Bien. Ciao.
Bye.
Bye.
Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. Vive le cinéma, vive le rire et vive le podcast. Je vous embrasse, que ciao.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.